Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Gisèle Cage à la présentation de ce journal dont voici les titres. Révision de la Constitution. Les anciens parlementaires se sont prononcés en faveur vendredi à Kinshasa. Pour eux, le principe général du droit parle de non-immuabilité de loi, car toute loi est susceptible d'être changée. 3 ans depuis le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF contre les rebelles des ADF à Beni dans la province du Nord Kivu, il y a eu des avancées significatives pendant ces 36 mois, malgré certains défis qui restent à relever, déclare le porte-parole militaire dans cette région. Vous l'entendrez dans ce journal. Malgré la guerre qui a touché Bweremana depuis février dernier, l'Institut supérieur pédagogique de Bweremana au Nord Kivu n'a cessé de fonctionner, explique son directeur général Thierry Mutindu et notre invité. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Soutenir la révision de la Constitution est l'objet qui a réuni les anciens parlementaires hier au Palais du Peuple à Kinshasa. Après plusieurs heures de discussion, ces anciens parlementaires se sont convenus que le principe général du droit parle de non-immuabilité de loi, car toute loi est susceptible d'être changée. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration lue par Jérôme Lumuna Ndoubou, président des anciens parlementaires. Il est au micro d'Étienne Lissumbu.
Les anciens parlementaires de la République démocratique du Congo se sont réunis en vue d'échanger sur la révision constitutionnelle après débat et délibération. Font la déclaration suivante. Soutiennent la révision constitutionnelle et décident de prendre part active à la commission nationale y afférente. Fondent leur position sur les dispositions ci-après. Le principe général du droit, selon lequel la non-immuabilité des lois, la Constitution étant une loi, elle est susceptible des révisions. L'article 218 de la Constitution consacrant la révision constitutionnelle par le référendum ou par les deux chambres du Parlement est réunie en congrès. La jurisprudence abondante en la matière, depuis la loi fondamentale du 19 mai 1960 à la Constitution actuelle du 18 février 2006.
Réunis au sein du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapuiko, les professeurs des universités de la République démocratique du Congo ont décidé d'observer une grève cessez-le-feu général à dater du 5 décembre prochain. La décision a été prise mercredi dernier et publiée hier. Le Rapuiko reproche au gouvernement de n'avoir pas accompli son devoir en ce qui concerne les résolutions de la commission paritaire du protocole d'accord des Bibois, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo constate que ces engagements souffrent d'application. Par conséquent, cette structure qui regroupe le syndicat des professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC a décidé de l'arrêt de toutes les activités académiques. Ce 30 novembre marque le 3e anniversaire du lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF contre le rebelle des ADF à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Pour le porte-parole des opérations militaires dans la région du Grand Nord Kivu, il y a eu des avancées significatives pendant ces 36 mois, malgré certains défis qui restent à relever. Des avancées qui, selon le colonel Makazukai, doivent être capitalisées pour la restauration de la paix et la stabilisation de la région avec la collaboration de la population. Le colonel Makazukai, porte-parole des opérations militaires dans la région du Grand Nord Kivu, est au micro de Marc Marofimbo.
Ce que je peux vous dire brièvement, c'est que la primaire du bilan est réservée à la haute hiérarchie. Mais nous sommes passés de la communication spectaculaire à la communication d'action. C'est-à-dire que c'est à la population de dire 3 ans après, est-ce qu'on ne fréquente pas Mayangose? Est-ce qu'on ne fréquente pas Mwalika? Est-ce que les gens ne vont pas à Kassindi? Des choses qu'on ne vivait pas. Mais on ne peut pas bomber la poitrine pour dire on a fait ceci, on a fait cela. 2 mois, 3 mois, on amène les ex-otages. On frappe à gauche, à droite, et les gens sont en train de respirer. Je pense que c'est à la population de juger. Ceux qui vivent à Mayango, c'est à Kididiwe, disent qu'ils préfèrent être là-bas que dans la ville. Parce que là-bas, à Kididiwe, vous pouvez dormir et laisser votre porte ouverte, il n'y aura pas d'inquiétude. Donc ce sont des avancées que nous devons absolument capitaliser. Et pour capitaliser ça, nous devons travailler ensemble.
La société civile du territoire de Beni félicite pour sa part la coalition de forces congolaises et ougandaises qui traque les rebelles des ADF depuis exactement 3 ans. Selon son président, beaucoup de progrès ont certes été réalisés, mais les rebelles des ADF continuent à faire peser des menaces sur plusieurs localités du territoire. Omar Kalisha demande ainsi à la population de renforcer sa collaboration avec la coalition des forces congolaises et ougandaises afin de couper la chaîne de ravitaillement de rebelles ADF. Omar Kalisha, au micro de Marc Maroufimbo.
Ce n'est pas ce qu'ils n'ont pas pu faire, mais peut-être ce qu'il faut qu'ils fassent de plus. Vous savez, au niveau de Watalinga, Rwenzori, l'axe Beni Kasindi, la partie même Ringeti, Kainama, il y a eu une accalmie au nom des opérations conjointes. Et vous verrez, de temps en temps, il y a même des preuves des otages. Mais toutefois, on va signaler la partie Beumanyama, la partie le long de la rivière Ituri. L'entièreté de la partie Ituri, là, d'Otomabere et Komanda. La partie Mambasa, il y a des bastions qui sont encore là. Il y a la partie Mohoyo, où ça demande les mêmes pressions qui se passent dans la partie Nord-Kivu, territoire de Beni, doivent se passer aussi dans cette contrée dont je viens de citer. La réussite, c'est la conjugaison entre la population et son armée, mais aussi à l'armée d'être prompte à toutes les informations concernant le mouvement de l'ennemi, ce qui continue encore à être parmi les gens qui travaillent de mèche avec l'ennemi, trop c'est trop. On ne supportera jamais de telles personnes de notre famille continuer à faire autant avec l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller la population congolaise.
Restons à Beni, où la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits humains a visité hier le site de déplacés de Luvangira. C'est dans la commune rurale de Oicha, à 30 km de la ville de Beni. Paola Gaviria a eu un moment d'échange avec ces déplacés afin de comprendre leur situation de vie dans ce site. Elle a également échangé avec les organisations partenaires des agences des Nations Unies qui assistent ces déplacés. Pour elle, les efforts doivent être fournis afin de protéger et assister ces personnes vulnérables et sécuriser leur milieu d'origine afin de faciliter leur retour. À Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri, renaît donc progressivement, nous parlons de la ville de Bunia, de ses cendres à la faveur de la calmie qui règne dans cette agglomération de plus d'1 million d'habitants. De nombreux habitants passent en tout cas leur soirée en se divertissant sans trop de soucis. Pour beaucoup d'entre eux, ce moment de convivialité sont l'occasion de discuter de leur quotidien ou de partager des instants de détente. Ézéchiel Mouzalia, qui a passé la soirée en compagnie de certains d'entre eux, nous décrit l'ambiance de la ville dans ce reportage.
Nous sommes sur une moto sur le rond-point Kappa en direction du rond-point pique-nique. La nuit est tombée, mais Bunia et ses habitants sont loin de dormir. Le long du trajet, bars et maisons de commerce sont ouverts. En chemin, nous rencontrons une vendeuse de boissons en plein service. Nous livre son petit secret pour attirer la clientèle.
Le client est plus attiré par la manière dont vous l'accueillez, votre sympathie, comment vous lui parlez.
Il est 20h et les tables sont déjà couvertes de bouteilles. Nous nous intéressons à quelques fêtards présents sur place. L'un d'eux nous confie ses impressions sur la calmie retrouvée à Bunia.
Un cousin à moi, je lui ai dit que je suis à Bunia. Il m'a dit, j'aime d'aller à la guerre. Hein.
Moi, je pense que c'est une contre-campagne de la ville.
Un mototaximène appelé Ibu nous conduit vers la rue de l'avenue Ituri où se trouve un dancing club. L'ambiance est différente de celle que l'on retrouve habituellement dans l'espace karaoké où un habitant invite les Congolais à raviver leur patriotisme dans ce contexte de la guerre à l'est du pays.
Les Congolais aiment trop l'argent. Nous devons être éveillés. Parce que si nous ne bâtissons pas ce pays, c'est tout un avenir qui est sans espoir.
En dehors de la ville, plusieurs autres espaces récréatifs ont vu les jours où les habitants s'y retrouvent pour passer leur temps libre.
Des maisons détruites par la pluie et des sinistrés sans abri, ça se passe à Mouvongwe et Katondo dans les territoires de Bukama, province du Olomami. L'administrateur de ces territoires a désormais le regard tourné vers le gouvernement pour assister ses administrés dépourvus de tout. Amadou Kalenga, administrateur du territoire de Bukama, à titre intérimaire joint par Jean Gandou.
En date du 14 novembre 2024, il s'est abattu une très grande pluie dans le groupement Upemba, Cheferi de Butumba, précisément dans les localités Mavungwe et Katondo, causant ainsi des dégâts matériels considérables, laissant plus de 231 foyers à la belle étoile. Nous avons 231 maisons détruites, 3 écoles, 4 églises et un centre de santé réparti comme suit. Localité Katondo, 228 maisons détruites, 2 écoles, 2 églises et un centre de santé. Localité Mavungwe, 9 maisons, 1 école et 2 églises. Au vu de cette catastrophe naturelle qui vient de frapper notre entité, et étant donné que nous n'avons pas de moyens pour assister les victimes, nous lançons un SOS au gouvernement national et provincial afin de nous venir en aide pour soulager notre communauté.
Au Kasaï oriental, distribution hier en Mbujimayi de l'assistance humanitaire aux familles victimes de la démolition des maisons sur les avenues de Doma et Zaïre au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba. Cette opération est présidée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. C'est un papier d'Esther Ndalafina rendu par Étienne Lissumbu.
Cette cérémonie se déroule en présence de plusieurs dignitaires, dont des organisations humanitaires, le ministre provincial des Affaires sociales et Action humanitaire. 3 sites de distribution sont ouverts. Il s'agit de la Caritas, de la mairie et de la maison communale de Bimpemba. L'assistance humanitaire est constituée des sacs de maïs de 50 kilos, du sucre, du sel, de l'huile végétale, des cartons de savon de bain, des mesurettes de petits fretins et d'une enveloppe pour permettre aux victimes de trouver un logement temporaire. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, indique que cette opération s'effectue sous l'impulsion du président de la République. Le bénéficiaire a remercié le gouvernement pour ses gestes de solidarité, signalant que c'est vers la fin du mois d'octobre que plusieurs maisons situées entre les avenues de Doma et Zaïre, dans les quartiers de la Plaine, à Bimpemba, ont été démolies à la suite d'un arrêté provincial signé le 6 septembre dernier pour des raisons d'utilité publique.
Goma, ville écologique, c'est un projet présenté et défendu jeudi 28 novembre à la mairie de Goma. Nous sommes en Nord-Kivu devant les membres du comité urbain de sécurité par Prince Kiyangi, député honoraire. Ce projet, initié par le groupe des écologistes de la RDC, vise à assurer une éducation environnementale permanente dans tous les quartiers de la ville à travers l'installation des noyers d'écologistes à la base. D'après Prince Kiyangi, ce projet veut attirer l'attention des autorités ainsi que la population au respect des normes environnementales. Il est au micro de Sifa Maguro.
N'est-ce pas que Goma est mondialement réputée comme une ville touristique? Mais elle ne saurait maintenir cette renommée sur le plan international si les normes environnementales ne sont pas respectées. Or, nous constatons non sans regret que nombreux habitants de la ville de Goma bafouent et ignorent éperdument les normes environnementales. À bord des véhicules, vous allez trouver des jeunes gens qui jettent des bouteilles d'eau sur la chaussée. Le peu d'arbres que nous avons sont arrachés et coupés par des élèves en bleu blanc. Les caniveaux sont devenus des poubelles. N'est-ce pas que Goma est entouré de 2 volcans? Le lac Kivu garde pour nous du gaz méthane et l'afflux massif des populations déplacées dans les environs de la ville de Goma devait constituer une préoccupation sur le plan écologique. Voilà pourquoi le groupe Les Écologistes RDC développe un projet intitulé Goma Ville écologique. Nous allons devoir assurer une éducation environnementale permanente auprès des habitants de la ville de Goma. Nous allons devoir susciter et alimenter des débats publics autour des enjeux environnementaux. Nous allons aussi organiser des activités d'assainissement et de reboisement.
Cette organisation sollicite un accompagnement de la part de la mairie, mais aussi l'approbation de ce projet par les autorités de base.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires du Hezbollah près de points de passage frontaliers entre la Syrie et le Liban qui étaient, selon elle, activement utilisés par le parti chiite pour transférer des armes. Ces raids illustrent la fragilité du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël le 27 novembre après 2 mois de guerre ouverte qui a fait 3 900 morts et près de 17 000 blessés au pays du Cèdre. En Namibie, les électeurs votent encore ce samedi 30 novembre, troisième jour de vote pour les élections présidentielles et législatives. Le scrutin a été prolongé à la suite des défaillances qui ont empêché de nombreux citoyens de voter. Une situation inédite pour ce pays d'Afrique australe, reconnu pour sa stabilité et sa tradition démocratique.
L'invité.
Malgré la guerre qui a touché Bouremana depuis février dernier, nous avons réussi à sauver l'année académique. C'est la satisfaction du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bouremana à la limite entre le Nord et le Sud Kivu. Monsieur Thierry Moutindou explique comment cet établissement public a adapté son fonctionnement en déplaçant le cours à Minova et à Mugunga pour accueillir les étudiants déplacés. Il a été reçu par Rosalie Zawadi.
Monsieur Thierry Moutindou, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Aujourd'hui, comment fonctionne cette institution?
En tout cas, l'ISP Bouremana fonctionne maintenant dans des conditions de résilience. Vous savez que depuis que la guerre a éclaté, nous avons été sommés de quitter les lieux et de nous déplacer. Et donc, par exemple, aujourd'hui, nous continuons avec les activités à Minova, à l'Institut Luanga, où nous avons été accueillis. Et pour ceux qui ont fui de ce côté de Goma, nous fonctionnons à Mugunga. Donc c'est des conditions très très difficiles. Vous savez que c'est une école publique de l'État, mais jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas pris en charge. Ça fait que et les enseignants et les étudiants, en tout cas, ils passent les activités dans des conditions très difficiles.
En parlant de la manière dont vous fonctionnez, une partie à Minova, une partie à Mugunga, un auditoire qui est subdivisé en deux, comment les cours se tiennent?
En tout cas, on n'a pas de choix. C'est la situation qui nous met dans ces conditions. On n'a pas le choix. Et donc, pour ceux qui sont à Mugunga, par exemple, un enseignant qui a fini son cours à Mugunga dans une promotion, et la même promotion étant à Minova, il est obligé d'aller soit là donner le cours, ou on prend quelqu'un d'autre qui est là, parce que la majorité aussi des enseignants, ils ont du mal à traverser les eaux. Après le naufrage avec le bateau Merdi, les enseignants ont vraiment de la peur à fréquenter encore ces eaux. Et donc, nous arrangeons pour que ça tienne. Les conditions ne sont pas du tout bonnes, mais on s'arrange parce qu'on a le devoir aussi de continuer à former ces jeunes. Parce que vous savez, l'ISP a un objectif de former des enseignants du secondaire. Et si nous ne le faisons pas, donc, demain, les écoles secondaires peuvent être en carence des enseignants. Parce que les ISP, c'est des institutions qui ont la charge de former des enseignants qui vont prendre en charge les enseignements au niveau des écoles secondaires.
Et aujourd'hui, vous en êtes à quel niveau de l'année académique?
L'année académique a repris depuis le 28 octobre. C'est Madame la ministre qui a fait le go. Il a lancé les activités à Kinshasa. Et nous, on a déjà commencé. Nous avons déjà eu 2 réunions et les premiers enseignements ont commencé. Et donc, les enfants sont déjà au cours dans ces conditions dont je vous ai parlé.
Et vous avez quel effectif d'étudiants?
Les effectifs, nous en avions avant 206. Mais au fur et à mesure que la guerre continue, les effectifs sont en train de baisser.
Comment ont été les résultats des étudiants qui étudient dans ces conditions pour l'année académique que vous avez terminée?
Vous savez qu'il y a des étudiants qui finissent à la première session, d'autres à la deuxième session. Et il y a encore d'autres qui ont des litiges et qui n'ont encore pas fini avec la passation des deuxièmes sessions. Et donc, en général, nous pouvons dire que dans cette résilience, nous avons réussi à sauver l'année. Et nous commençons cette autre année académique 2024-2025. Le pourcentage, s'il faut le dire, bon, nous avons réussi à un certain pourcentage. Nous aurons à déterminer à 90 ou à 95 lorsque tout le monde aura déjà passé toutes les sessions qu'il faut pour qu'on termine avec une année académique.
Et quelle filière vous organisez à l'ISP Bouremana?
L'ISP Bouremana organise les filières comme la géographie, gestion de l'environnement, anglais, cultures africaines, français, langues africaines, histoire, gestion du patrimoine et développement, l'agro-vétérinaire, les mathématiques et physiques, les sciences commerciales, économiques, administratives et de gestion.
L'ISP Bweremana fonctionne en déplacement depuis février 2024. Quelle est votre demande aux autorités?
La grande demande aux autorités, c'est la paix. Et si possible, la réouverture de la route, même dans ces conditions de guerre, pour nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Et aux hommes de bonne volonté, dans ces conditions de résilience, en tout cas, nous sollicitons un appui, surtout financier, si pas à l'école, mais aux étudiants. Parce que nombreux parmi les étudiants ont déjà abandonné. Ils ne savent plus payer les frais académiques. Or, les enseignants n'enseignent pas gratuitement. Et donc, si ceux qui ont de bons cœurs pouvaient venir en aide aux étudiants qui sont en train d'abandonner pour qu'ils continuent avec les études, ça sera une bonne chose et pour l'école, et pour les étudiants, et pour la société.
Monsieur Thierry Moutsindou, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bweremana. Merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Thierry Moutsindou s'entretenait avec Rosalie Zawadi. Gisèle Cage était à la présentation de ce journal. Merci de votre fidélité à Radio Kapi. Excellente soirée à tous.